Christophe Bouton, que nous remercions beaucoup pour sa présence, est professeur de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne. Il est spécialiste de Hegel et de philosophie d'histoire et du temps. Il a écrit de nombreux livres sur ce sujet, à la fois universitaire et plus grand public. Je pense notamment à Faire l'histoire, qui est un essai philosophique sur l'histoire destinée à un lectorat non exclusivement universitaire, ou encore à J'ai pas le temps, qui est un livre de philosophie destiné à la jeunesse, ou encore un livre universitaire paru chez Vrin, Le procès de l'histoire. Christophe Bouton a donc le talent de s'adresser à un grand nombre de publics aux attentes variées. Et nous l'accueillons aujourd'hui pour nous parler de son dernier ouvrage, hein, L'accélération de l'histoire, sorti l'an dernier dans l'excellente collection L'ordre philosophique chez Au Seuil. Cet ouvrage s'adresse à un lectorat averti, mais son érudition alliée à sa lecture agréable donne le moyen à toute personne à la fois de s'initier et d'approfondir ce thème récurrent de l'accélération de l'histoire et qui hante de plus en plus notre époque. L'histoire s'accélérerait comme le train fou du film Unstoppable de Tony Scott, hein, auquel tu fais référence à plusieurs reprises. Ainsi, cette métaphore du train inarrêtable, lancé à grande vitesse, évoque bien le fait que nous avons le sentiment d'aller dans le mur, que le mur se rapproche de plus en plus vite, inéluctablement, sans que nous puissions rien faire pour arrêter sa course folle. Une question que tu soulèves est de savoir ce que veut dire le fait que l'histoire s'accélère, alors que nous n'avons aucun système de coordonnées indépendant, stable, hors de l'histoire même, pour en juger. Comment mesurer la vitesse de l'histoire, si on veut. Et tu explores alors les différentes connotations de ce thème. Ainsi, nous sentons-nous tous, comme c'est le cas quand nous sommes plongés dans une écoute d'un morceau de musique, que le rythme s'accélère, que le tempo de l'histoire s'emballe. Le réchauffement climatique, la succession des innovations technologiques, l'instantanéité de l'actualité, où une information chasse l'autre et nous fait perdre la mémoire et la connexion au temps long, la sollicitation permanente des réseaux sociaux qui nous installe dans un présentisme dont tu parles beaucoup, où l'horizon n'est plus un futur lointain, mais la minute qui suit. Notre bulle temporelle diminue et nous rend incapables de nous projeter dans des utopies, ou rend difficile la projection dans des utopies, qui suppose un rapport au temps long et le sentiment que nous pouvons avoir une maîtrise sur notre histoire. Ce sont tous ces thèmes et bien d'autres encore que tu abordes dans ton ouvrage et qui charrient des questions particulièrement urgentes et brûlantes que la philosophie permet de poser sereinement avec le recul intellectuel et historique qui permet peut-être de mieux les comprendre. Alors évidemment, tu es bien mieux placé que moi pour parler de ton livre. C'était une manière d'introduction. Je te laisse maintenant la parole pour le présenter.
Merci Pierre pour cette présentation. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à la Société de philosophie de Bordeaux aussi. Je suis très content d'intervenir dans ce cadre et dans le cadre de cette librairie Mola qui m'est très chère. Alors, je ne serai pas très long, mais je voudrais quand même dire quelques mots de mon livre, parce que vous ne l'avez peut-être pas encore lu. Je vous donnais une idée un peu de la problématique et des différents chapitres. Mais d'abord, je dirais quelques mots de la manière dont ça s'inscrit dans mon parcours. Donc, comme tu l'as rappelé, je travaille sur la question du temps et de l'histoire qui sont liés. Et il y a une dizaine d'années, je m'étais intéressé à la dimension sociale de notre rapport au temps, et notamment ce que j'appelle les normes sociales du temps, le fait que on était souvent contraint de se presser, d'optimiser le temps, qu'on manquait de temps, qu'on était soumis à des deadlines. Et j'avais essayé de réunir ces réflexions dans une enquête qui a donné mon livre Le temps de l'urgence, où j'abordais déjà cette question de l'accélération, mais au niveau de nos vies individuelles. Ensuite, j'avais travaillé aussi sur la philosophie de l'histoire. Mon idée était d'étudier des catégories de la modernité qui permettent de penser l'histoire. Donc la modernité, c'est-à-dire en gros des Lumières à nos jours, hein. C'est cette période-là que j'étudie plus particulièrement. Et j'avais examiné l'idée que ce sont les hommes qui font l'histoire, dans le livre que tu as évoqué, Faire l'histoire, en prenant comme objet de mon enquête ce qu'un historien allemand qui s'appelle Reinhard Koselleck, qui a fait de l'histoire des concepts, appelle la faisabilité de l'histoire. C'est l'idée que l'histoire serait faisable par les hommes, ce qui n'est pas du tout une idée évidente, et c'est une idée qui apparaît aux alentours de la Révolution française. Donc Reinhard Koselleck est un historien qui est féru de philosophie, enfin, était parce qu'il est mort au début des années 2000, et qui permettait de, pour moi, de continuer à faire de la philosophie de l'histoire après les grands récits, d'une manière différente de celle qui était développée par des auteurs comme Hegel ou Marx, que j'avais étudié aussi, mais qui supposait des téléologies, ce que Lyotard a appelé des grands récits. Donc, avec Koselleck, j'avais une sorte d'outil méthodologique que j'appelle la théorie critique de l'histoire pour étudier une notion, une catégorie qu'on utilise pour penser notre historicité ou penser notre époque. Et la méthode que j'ai appliquée pour ce livre, L'accélération de l'histoire, c'est qu'elle consiste à faire la généalogie de cette notion, quels sont les auteurs qui en ont parlé, dans quel contexte, à étudier la sémantique, c'est-à-dire les différentes significations, et ensuite essayer aussi de voir les normes qui sont attachées à ces catégories. Donc finalement, quand j'avais étudié la question de l'urgence et la question de la faisabilité de l'histoire et de cette idée d'une théorie critique de l'histoire, je me suis demandé quelle pouvait être la prochaine catégorie que j'allais étudier. J'ai naturellement pensé à l'accélération et l'accélération de l'histoire, puisque c'était une manière de prolonger ma réflexion sur l'urgence, puisque quand on est dans l'urgence, on doit accélérer, mais à une échelle plus globale. L'idée, c'est que l'accélération est un concept donc qui a une dimension plus collective, qui permet au fond de refaire un grand récit de la modernité, qui serait l'idée que depuis le milieu du XVIIIe siècle, eh bien, l'histoire européenne, occidentale en tout cas, se serait emballée à l'image de la locomotive du film Unstoppable de Tony Scott. Donc, alors, où est-ce que j'ai trouvé cette notion d'accélération de l'histoire dans mes lectures? D'abord, je l'ai trouvé sous la plume de Pierre Nora, au début des Lieux de mémoire. C'est le premier mot, ça commence « accélération de l'histoire ». Dans cette préface, il explique que, finalement, le projet des Lieux de mémoire est une étude qui est liée à ce qu'il diagnostique, hein, comme une accélération de l'histoire à partir du 19e siècle. Avec l'idée que dans cette accélération, on perdrait le rapport au passé. C'est-à-dire que une des caractéristiques pour Nora de l'accélération de l'histoire, c'est le fait que le rapport au passé très fort dans les sociétés traditionnelles, sociétés paysannes, serait de plus en plus distendu et que dans les sociétés modernes, contemporaines, finalement, on n'aurait plus ce rapport au passé. Le passé disparaîtrait de plus en plus vite, d'où l'idée de Nora qu'il faudrait créer des lieux de mémoire pour reconstituer une sorte de rapport qui considère souvent d'un œil critique au passé. Ça, c'était une première piste. D'autre part, j'avais lu aussi le livre d'Hartmut Rosa dès le temps de l'urgence. Hartmut Rosa, qui a fait ce livre Accélération, c'est paru en 2005 en Allemagne, traduit en 2010 en France, et qui fait, de l'accélération une notion globale pour caractériser ce qu'il appelle la modernité tardive, c'est-à-dire qui commence à partir des années 1970. Et il cite un auteur américain, Peter Conrad, qui dit que l'accélération, enfin plutôt que la modernité, c'est l'accélération du temps. Alors je précise que l'accélération du temps, Étienne Klein l'a rappelé souvent, une formule qui n'a pas de sens, parce que l'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse qui se mesure par rapport au temps, donc il ne peut pas y avoir d'accélération du temps. C'est pourquoi moi je préfère parler d'accélération de l'histoire, mais c'était intéressant de voir que pour Rosa, cette catégorie était absolument centrale, donc c'était une deuxième source. Et puis, j'avais aussi noté que cet historien allemand, Reinhard Koselleck, a fait deux articles sur le sujet, dont un qui s'appelle « Y a-t-il une accélération de l'histoire ?» Donc, il pose vraiment la question. Et d'ailleurs, il répond je m'inspire de sa réponse de façon assez prudente en disant qu'il faut se méfier des grandes catégories générales et qu'il n'y a pas d'accélération de l'histoire, dit Kosselek dans cet article. Il y a une accélération dans l'histoire et cette accélération doit être elle-même spécifiée en fonction, disons, des types d'accélération dont on parle. Et j'y reviendrai, mais distingue différents types d'accélération. Donc là, j'avais une troisième piste. J'ai vu aussi, et j'ai lu pour mon enquête, qu'il y avait un livre de Daniel Halévy, que je ne connaissais pas au départ, qui s'appelle « Essai sur l'accélération de l'histoire » et qui date de 1948. Et on voit dans les études, on essaye de voir à partir de quand l'expression « accélération de l'histoire » a été popularisée, utilisée en sciences humaines. On voit que c'est après le livre d'Halévy. Vous savez, on peut faire des enquêtes sur Internet, on rentre les termes et on voit qu'à partir de 1950, eh bien, le terme est employé de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même une formule qui revient souvent et qui, pour moi, était plus était le titre d'un problème, parce qu'au fond, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire exactement. Donc, le but de l'enquête, c'est aussi de clarifier ce qu'on entend quand on parle d'accélération de l'histoire. Et donc, c'était mes différentes pistes pour réfléchir sur cette notion. Ensuite, dans mon travail, dans ce livre, je me suis posé plusieurs questions. D'abord, une question, donc comme je l'ai dit, sur l'origine de cette idée. Où est-ce que ça apparaît? Dans quel contexte? Une réflexion aussi sur ses significations. Et il se trouve que l'accélération se dit en plusieurs sens. Et enfin, aussi une question sur la réalité du phénomène. Est-ce que c'est une représentation de l'histoire, voire un fantasme qu'on a? Il y a des auteurs qui disent qu'à chaque époque, on a le sentiment que tout va plus vite. Ou est-ce que c'est vraiment une réalité qui est bien documentée par les historiens? Donc ça, c'était une autre question. Et la dernière, et c'est une question que je trouve très intéressante quand on parle de théorie, je développe ma théorie critique de l'histoire, c'est que ces catégories, ces grandes notions, ces catégories historiques qui, contraires à la modernité, qui sont censées définir la modernité, souvent, elles ont une dimension de jugement de valeur, ce que j'appelle une normativité. C'est-à-dire, au fond, il y a des auteurs qui disent que l'accélération, c'est formidable. Il y a un livre d'un journaliste américain qui s'appelle Robert Colville, qui s'appelle The Great Acceleration, et il dit que l'accélération, c'est great au sens que c'est quelque chose de... C'est une chance, c'est la grande chance de la modernité que tout aille plus vite. Alors, ma question, c'est pourquoi pas, mais au nom de quels critères on dit ça, voilà. Et de même, et ça, c'est ce qu'on trouve plus souvent, notamment chez Rosa, que l'accélération serait au contraire problématique, serait dangereuse, qu'elle a des conséquences néfastes. Et donc, un des aspects de l'enquête, c'est au nom de quoi, selon quels critères, on va dire que c'est bien, c'est mal. Un autre exemple, dans les diagnostics critiques de la modernité à partir de l'accélération, que j'ai étudié dans le deuxième chapitre, c'est Nietzsche, qui parle d'une accélération monstrueuse de la vie. Elle écrit ça dans les années 1870-1880. Et c'est intéressant de se demander, mais pourquoi c'est monstrueux, après tout? Voilà, donc ça, c'était les différentes directions. Et donc, dans le premier chapitre, j'étudie les principales significations attachées à la notion. Vous avez une signification politique, qui apparaît autour de la période de la Révolution française, qui dit qu'il y a accélération de l'histoire au sens où les grandes mutations, les grands événements se succèdent de façon plus rapide qu'avant. Donc c'est typiquement la Révolution française qui enchaîne, par exemple, une succession de changements de régime qui va se poursuivre encore au XIXe siècle, qui donne le sentiment à des observateurs, des historiens, des intellectuels, que ça va plus vite. Par exemple, il y a une formule de Chateaubriand que j'aime bien, qui dit qu'il essayait de faire l'histoire de son temps, donc à l'époque de la Révolution française et dans ses suites, et qui dit qu'il n'y arrivait pas parce que les événements couraient plus vite que ma plume. Et de même, à cette époque, l'accélération devient un principe, un impératif politique aussi. Il y a une phrase citée par Koselleck de Robespierre dans un discours de 1793 qui dit que les progrès de la raison humaine ont préparé cette grande révolution et il vous appartient et vous avez le devoir de l'accélérer. Il dit ça à la Convention. Donc il y a cet aspect politique du concept d'accélération dans son usage appliqué à l'histoire, à la société, qui est une première signification. Et ensuite, on voit que l'accélération est liée à cette autre révolution qu'a été la révolution industrielle, parce que c'est, je dirais, une accélération, un sens technico-scientifique, au sens où le sentiment que la société va plus vite, que l'histoire s'emballe, est lié à l'accélération technologique, avec trois domaines bien identifiés, bien documentés. Vous avez une accélération des transports, qui commence en fait au 18e siècle. On se déplace de plus en plus vite. Vous avez une accélération de la production aussi. On produit de plus en plus vite grâce aux machines. Et vous avez une accélération également de la communication, hein, qui va aussi commence au 19e et se prend de l'ampleur au 20e siècle. Hein. Donc ces phénomènes s'accompagnent aussi du fait que les découvertes scientifiques qui sont à l'origine des progrès technologiques se produisent à un rythme plus rapide. C'est-à-dire qu'il y a aussi une accélération de ce point de vue-là, des découvertes scientifiques qui font boule de neige et qui permettent ces changements technologiques. Et donc, on voit des auteurs, des intellectuels, des philosophes, des romanciers qui reçoivent disons, qui observent ces phénomènes et qui les décrivent en termes d'accélération de la société. Bon, le symbole au 19e siècle, c'est clairement le chemin de fer. Le cheval vapeur, et qui va d'ailleurs donner lieu à des réceptions positives ou négatives. Il y a des normativités qui s'appliquent. Alors ensuite, dans le deuxième chapitre, j'étudie certains auteurs qui ont critiqué la modernité du fait qu'elle entraînait une accélération de l'histoire, de la vie, de la société. Donc j'ai cité Nietzsche tout à l'heure. Il y a un auteur américain qui est intéressant, qui est moins connu, que j'ai découvert grâce à Koselleck, qui s'appelle Henry Adams, qui parle qui écrit en fait une autobiographie au début du 20e siècle et qui édicte ce qu'il appelle la loi d'accélération. Enfin, il l'édicte, il a décrit plutôt en disant que finalement la société moderne est soumise à une loi d'accélération. Les autres auteurs que j'étudie, Daniel Alevi, justement, Hartmut Rosa, que je critique aussi, on y reviendra peut-être parce que je trouve qu'il a une vision trop globale de l'accélération et surtout son concept est complètement dépolitisé. Parce qu'il pense que parce que la société va très vite, la politique n'a plus prise sur l'évolution de la société. Et donc il conclut son livre Accélération par la thèse de la fin de la politique, fin de l'histoire, ce qui me semble discutable. Et donc, dans la troisième partie, troisième chapitre, je discute les travaux d'Hartog sur le présentisme, parce que le présentisme est présenté parfois comme une conséquence de l'accélération. C'est une idée qu'on trouve chez Hartog, mais aussi chez Pierre Nora, qui dit que quand tout va très vite, on n'a plus le temps d'anticiper l'avenir, on n'a plus le temps de se retourner vers le passé, on est concentré sur le présent. Et ça débouche sur ce que ces auteurs appellent la dictature du présent. Alors j'essaye de nuancer cette idée qu'on vivrait dans un temps concentré sur le présent. Je pense que le présentisme n'est qu'un aspect de notre expérience du temps. Et j'essaye de montrer qu'il y a dans les sociétés contemporaines, il reste encore un rapport au passé qui est assez important, que j'appelle le souci du passé, et un rapport à l'avenir. Qui tient en fait qu'il y a encore des réflexions sur l'avenir, il y a encore des utopies. Alors les auteurs aujourd'hui parlent d'utopie réelle ou réaliste, mais je dirais que la question de l'utopie n'est pas morte, et tout ce discours sur la fin des utopies aussi me semble problématique. J'essaie, si vous voulez, de décrire une modernité plurielle avec différentes expériences du temps, différents régimes d'historicité, plutôt que de réduire toute la modernité à une grande catégorie monolithique, que ce soit l'accélération ou le présentisme. C'est un peu ça le sens de mon travail, ce que j'appelle la polychronie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a plusieurs rapports au temps et pas simplement une seule conception monolithique de la modernité. Et le dernier, je finirai sur ce point, les deux derniers chapitres de mon livre traitent de la question de l'anthropocène, parce que dans mes lectures, dans mon enquête, j'ai découvert que dans la littérature sur l'anthropocène, d'abord, il y avait beaucoup de philosophies de l'histoire plus ou moins pensées, et surtout, le concept d'accélération jouait un rôle absolument central, parce que dans les travaux sur l'anthropocène, ont émergé dans les années 2000 le concept de grande accélération. Et la grande accélération, c'est un homme, la période qui va de la moitié du 20e siècle à nos jours, et qui se caractérise par le fait que tous les facteurs qui mesurent les impacts destructeurs de l'homme sur la nature augmentent de manière exponentielle. Et une exponentielle, hein, c'est une courbe qui représente l'évolution de plus en plus et continue de plus en plus rapide d'une variable au cours du temps. Donc, les auteurs, certains auteurs de l'Anthropocène, ont construit un tableau de 24 courbes que vous avez peut-être déjà vu et qu'on trouve d'ailleurs dans le livre qui était une de mes premières lectures sur le sujet de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz. L'événement anthropocène, c'est d'ailleurs une personne de Mola, Isabelle, qui m'avait attiré, qui avait attiré mon attention sur ce livre quand j'avais écrit Le temps de l'urgence. Tu devrais regarder, c'est intéressant. Et je vais chaudement remercier parce que c'est vraiment sur la question de l'anthropocène un livre fondateur, l'événement anthropocène. Et dans ce livre, vous trouvez cette sur une double page ces 24 courbes de la grande accélération qui sont des courbes en exponentielle, alors plus ou moins redressées. Et vous avez d'un côté des phénomènes, je dirais, socio-économiques, c'est-à-dire l'augmentation du PIB mondial, l'augmentation du tourisme, l'augmentation des transports, de la vente de véhicules, de téléphones, l'augmentation aussi des consommations de papier, d'engrais. Donc tout ça, on voit, ça, ce sont des courbes qui sont plus ou moins la forme d'une exponentielle, avec aussi une augmentation de la démographie, alors qu'il s'atténue un peu, là, la démographie, l'augmentation n'accélère plus, mais qui est une courbe aussi... qui approche une exponentielle. Et dans la partie gauche du tableau de la grande accélération, vous avez donc des facteurs qui sont de l'ordre de la nature, disons plutôt, avec l'augmentation de la température, l'augmentation des gaz à effet de serre, exponentielle aussi, l'augmentation de la déforestation, la chute de la biodiversité. Tout ça se met en regard et c'est... Donc ce tableau qui documente cette notion de grande accélération, qui peut d'ailleurs être complétée parce que vous avez aussi une accélération de la fonte des glaciers, des glaces. Vous avez aussi une autre courbe exponentielle très intéressante à observer, qui est l'augmentation de la consommation d'énergie. Et donc parce que je me suis intéressé dans ces chapitres à un historien de l'environnement, qui s'appelle John McNeill, qui explique que de 1920 à aujourd'hui, l'humanité a consommé pratiquement autant, voire plus d'énergie que durant toute son histoire. Donc il y a ce qu'il appelle une orgie d'énergie, et comme cette énergie, c'est essentiellement, depuis la révolution industrielle, de l'énergie fossile, il y a clairement une corrélation avec le phénomène du réchauffement climatique, donc qui est documenté dans cette grande accélération. Voilà. Et donc le lien entre l'anthropocène et la question de l'accélération, c'est aussi le fait que l'accélération technoscientifique, qui s'est nourrie d'énergie fossile au 19e et encore aujourd'hui, eh bien, elle est la cause aussi de cette grande accélération diagnostiquée par les personnes qui s'intéressent à l'Anthropocène. Donc, alors dans ces travaux sur l'Anthropocène, beaucoup sont dans la littérature anglo-saxonne, on voit aussi des grands récits, on voit aussi des philosophies de l'histoire, on voit différentes aussi stratégies pour répondre aux défis posés par le réchauffement climatique. Donc ça, c'est aussi des éléments que j'étudie et qui font, qui expliquent cette place importante que j'ai découverte au cours de l'enquête de l'Anthropocène dans un livre sur la question de l'accélération. Voilà. Donc je m'arrête là. J'ai donné une idée un peu générale de mon ouvrage, et, mais je n'abuse pas plus de la parole.
C'est très intéressant et ça restitue de façon, ça donne une représentation assez synoptique, en effet, du parcours que propose ton ouvrage, à la fois riche et fécond. Alors je voulais revenir sur un point parce que, en effet, tu citais Klein qui dit qu'au fond il n'y a pas de critères extérieurs pour mesurer l'accélération du temps. Le temps étant les cadres de mesure, bon, on n'a pas de cadre de ce cadre de mesure. Et donc toi tu dis à juste titre, on peut en revanche parler d'accélération de l'histoire si on entend par histoire ce qui est composé de la succession des événements, et on pourrait observer, et on peut l'observer, peut-être une accélération dans la succession. Et tu parles à ce moment-là de tempo et beaucoup de rythme. Et ça fait penser, en effet, à la musique, comme dans la musique, en écoutant de la musique sans avoir besoin d'horloge, on se rend compte que sur un même espace de temps rythmique, il y a une succession de notes plus rapides. On se rend compte donc de l'accélération du tempo. On peut se rendre compte aussi, sans avoir besoin... peut-être de cadre extérieur, de l'accélération de l'histoire, l'accélération des événements. Tu faisais référence à Chateaubriand, il y a Tocqueville qui dit ça aussi, la permanence des grandes familles inscrites dans un rapport à la Terre, qui disparaît par rapport justement à la succession des familles bourgeoises, les grandeurs se font, se défont, etc. Qu'est-ce que tu penses justement, parce que tu le creuses pas tellement, je sais pas si c'est pertinent, cette analogie musicale au fond du rythme de l'histoire avec le tempo musical.
Effectivement, c'est une question intéressante parce que c'est un peu un point aveugle de mon travail. Le rapport, cette analogie avec la musique, il faudrait approfondir. Ça vient en fait de certains auteurs. Alors je me souviens que Nietzsche dit que la modernité nous entraîne dans un rythme prestissimo. Mais voilà, il le dit sans vraiment expliciter le rapport à la musique. Et dans les travaux de Rosa, il y a trois formes d'accélération. Il y a l'accélération de la société, il y a l'accélération du rythme de vie. Et donc, cette accélération du rythme de vie, qui, à mon avis, sa contribution la plus importante, elle est centrée sur ces concepts de rythme et de tempo. C'est l'idée que dans une, et c'est ça que j'avais étudié dans le temps de l'urgence, dans une journée, on a le sentiment, par rapport à des périodes antérieures, de travailler plus vite et d'avoir plus de choses à faire au même moment. Alors j'avais un collègue spécialiste de musique qui m'avait dit, mais oui, en musique, le rythme et le tempo, c'est pas la même chose. Alors ce que j'avais compris, c'est que le tempo, c'est vraiment, on va jouer un morceau de musique plus vite. C'est comme si on passait une bande en accéléré un petit peu. Et donc ça nomme le fait que on va avoir au niveau de ce rythme de vie des actions à faire en un temps plus court. Et alors le rythme, lui, c'est le fait que pour une période donnée, on va mettre plus de notes, plus d'accords, on va enrichir. Et ça, c'est l'idée que du coup, dans un même temps, on va avoir plus de choses à accomplir. Et c'est cette notion de rythme, à mon avis, qui est plus pertinente pour... Parce qu'en fait, Rosa, d'ailleurs, ne les distingue pas, mais cette notion de rythme est plus pertinente pour parler d'accélération de l'histoire, parce que quand on voit ce que les auteurs veulent dire avec cette idée, c'est souvent le fait que dans une même période de temps, vous avez des événements importants en nombre plus nombreux, et que les, au fond, les phases de stabilité de l'histoire sont plus courtes. Il y a aussi une déclaration de Lamartine qui dit que en quelques années, il a assisté à 10 changements de régime, hein, peut-être en 2 décennies. Bon, et donc par rapport à l'ancien régime qui est resté stable sur des siècles, ça donne le sentiment d'une accélération, hein, comme s'il y avait une densification des événements. Et donc du coup, le concept de rythme est pertinent, sachant que ça serait intéressant. De voir plus en détail les liens avec la musique, de voir aussi si la musique elle-même n'a pas évolué. Au XXe siècle, il y a le jazz qui arrive et qui est une musique assez rapide, tempo assez élevé. Donc il faudrait voir s'il n'y a pas des corrélations aussi avec l'évolution de cette expérience du temps. Donc ça serait à creuser. Mais... je pense que ensuite, la question de l'accélération retrouve une... Donc c'est soit l'accélération du rythme, du tempo, mais de temps en temps, ça a trait directement quand même à l'augmentation d'une vitesse. Quand on parle de l'accélération des transports ou de la communication, il y a vraiment l'idée que on se déplace plus vite. Et là, on retrouve une accélération au sens plus physique. Une augmentation d'une vitesse et la réduction des trajets. Je me souviens d'un exemple frappant de Kosellek qui parle de la mise au point d'un bateau, je crois que c'est le Clipper, au début du 19e, qui permet de faire le trajet entre New York et San Francisco en 90 jours. Hein, c'est une sorte de voilier avec 3 mâts. Mais qui est vraiment extrêmement bien conçu pour être ultra rapide, alors qu'avant il fallait le triple de temps. Voilà. Donc là, on a le sentiment que l'accélération, c'est de la vitesse. Et quand cette excellence accélération de la vitesse se démultiplie, parce que sur Terre aussi les déplacements sont plus rapides, eh bien à ce moment-là, ça donne ce sentiment d'une accélération. Qui n'est pas forcément lié au rythme ou au tempo, mais voilà, plutôt à l'augmentation de vitesse sur terre, sur mer et ensuite même dans les airs.
Et ce que tu dis là, au fond, fait signe vers une histoire linéaire qui se prolonge et qui, dans ce prolongement, se densifie d'une certaine façon. Et de ce point de vue-là, tu en parles un peu, mais j'aurais aimé entendre ce que tu penses de ça. De ce point de vue-là, ça a l'air d'entrer en contradiction, en tension du moins. Je suis pas sûr qu'il y ait une contradiction, mais en tension avec les auteurs qui voient une histoire qui est en train de s'arrêter, qui parlent de fin de l'histoire. Je pense notamment à Francis Fukuyama. Alors évidemment, aujourd'hui, on a l'impression d'être replongé dans l'histoire avec les guerres, etc. Qui avait l'air de dire, après la chute du mur de Berlin du bloc soviétique, que au fond les démocraties libérales s'étaient imposées dans le monde entier, c'était la fin des idéologies et la fin de l'histoire. Au fond, maintenant il y avait plus de demain, c'était la démocratie libérale, c'était imposé. Alors qu'est-ce que tu penses de ce type de jugement et de son rapport à ce que tu fais toi de l'accélération de l'histoire?
Oui, alors effectivement. Là, c'est vraiment une thématique, cette idée de fin de l'histoire qui m'a intéressé parce que je retrouve des thématiques de philosophie de l'histoire classique qui remontent à Hegel, en fait. Quand j'ai étudié la philosophie de l'histoire de Hegel, eh bien, c'est chez lui qu'apparaît cette idée de fin de l'histoire. D'ailleurs, j'avais montré qu'en réalité, Hegel en parle très peu. Et quand il en parle, c'est des notes d'étudiants, c'est même pas lui qui a écrit. Donc le terme de fin de l'histoire chez Hegel, en fait, a été surinterprété dans les interprétations de Hegel. Et le premier auteur intéressant à ce sujet, c'est Alexandre Kojève, qui a fait des cours sur Hegel à l'école pratique des études dans les années 30 en France. Alors, vous savez, il y avait Lacan, Sartre, Merleau-Ponty, et Queneau qui ont suivi ces cours. Hein. Ça a eu une grande importance dans la réception de Hegel en France, et ça a lancé l'idée, puisque c'était vraiment une conviction de Kojève, que pour Hegel, l'histoire s'était arrêtée avec la Révolution française, voire ça continuait un peu avec l'épopée napoléonienne, et puis ensuite l'histoire était arrêtée, au sens où, après cette période, il n'y aurait plus rien de fondamentalement nouveau dans l'histoire du monde. Kojève alors dit qu'on finalement il n'y a plus qu'une sorte d'histoire qui se répète, une retombée de l'histoire dans la nature. Et alors parfois on ne sait pas s'il défend cette idée avec ironie ou si c'est il y croyait vraiment, mais c'est une idée qu'a marqué la réception de Hegel et que Fukuyama reprend dans son livre de 89, La fin de l'histoire et le dernier homme. Parce qu'il se réfère à ce qu'il appelle Hegel-Kojève, et pour lui, la fin de l'histoire, effectivement, c'est l'avènement des démocraties libérales, libérales au sens politique et économique, puisque c'est ce qu'on a beaucoup reproché à Kojève, de voir dans le capitalisme un allié de la démocratie, alors qu'on voit bien qu'en Chine, le capitalisme se combine très bien avec un régime autoritaire. Bon. Et donc, cette idée de fin de l'histoire, moi, je la trouvais fausse pour Hegel, parce que je pense qu'Hegel n'a pas pensé ça. Il pensait que l'histoire, que d'abord, qu'on ne pouvait pas prévoir l'avenir, et donc qu'on ne pouvait pas dire qu'il n'y aurait rien de fondamentalement nouveau dans l'avenir. Hegel a aussi une idée que l'esprit humain a une créativité infinie qui fait qu'il est marqué par la catégorie de nouveauté et produit du nouveau. Et de l'imprévisible. C'est comme ça, en tout cas, que je lisais Hegel. Donc, du coup, le livre de Fukuyama me convainquait à moitié. Et ce qui m'a étonné, c'est de retrouver les idées de Fukuyama dans le livre de Rosa, effectivement, où à la fin, la conclusion du livre, c'est la fin de l'histoire, qui est liée à la fin de la politique, et qui est liée aussi à l'idée de Rosa que l'accélération nous mène dans le mur. Et d'ailleurs, à la fin du livre, il évoque une catastrophe finale qui serait l'aboutissement de ce qu'il appelle la spirale de l'accélération. Soit il parle d'une épidémie, d'une guerre nucléaire, et je ne sais plus quelle est la troisième hypothèse, mais c'est assez pessimiste et en même temps pas complètement absurde, puisqu'on a vu qu'il y a eu une pandémie, qu'il y a eu une menace nucléaire qu'on n'imaginait pas, qui est revenue avec la guerre en Ukraine. Et donc, finalement, ce thème de la fin de l'histoire a alimenté une sorte de catastrophisme. Ce qui me gêne dans ce discours-là, dans sa version de Rosa, c'est que c'est l'idée qu'on peut rien faire, que la politique est désynchronisée par rapport au rythme effréné des sociétés, parce que je pense que c'est inexact, que les démocraties ont quand même une marge de manœuvre par rapport au phénomène de l'accélération. On le voit d'ailleurs dans le cas du réchauffement climatique. Hein. Malgré tout, le GIEC fait des recommandations et le discours, c'est pas bon, ben, on peut plus rien faire, on s'arrête. Dans le dernier rapport du GIEC, vous avez 5 scénarios possibles, le 6e rapport, qui varie en fonction des mesures prises ou non par les États. Le résumé des rapports du GIEC depuis le début, ça s'appelle résumé pour les décideurs, les policy makers. Donc, simplement, j'avais opposé à Rosa cette formule de Bourdieu que j'aime bien, qui disait à propos de la fin de l'histoire que c'est un performatif déguisé en constat. C'est-à-dire que on fait, si vraiment on croit que c'est la fin de la politique, c'est la fin de l'histoire, à ce moment-là, effectivement, on va rien faire. Et du coup, cette formule est performative au sens où elle produit le constat qu'elle est censée décrire. Et donc, je critique dans le livre ce catastrophisme qu'on voit à la fin du livre de Rosa, cette critique de la politique aussi qui est derrière. Et j'ai noté d'ailleurs que dans la pandémie, Rosa a fait un petit article dans la revue AOC qui s'appelle « Le miracle et le monstre ». Et alors, le monstre, c'est le virus Covid-19. Donc, il a fait ça au début de la pandémie, dans les premiers confinements. Et le miracle, c'est le fait que la politique a réussi à stopper l'économie pour gérer la crise sanitaire, alors plus ou moins bien. Et pour lui, c'est miraculeux parce qu'il découvre que la politique a un pouvoir sur l'économie, un pouvoir sur la société. Un pouvoir très fort parce que voilà, il y a des décisions, on vous impose des masques, des vaccinations, des confinements. Donc, c'est pas le sujet de mon livre de discuter toutes ces mesures. Elles ont eu quand même leur utilité, je pense. Mais surtout, c'est l'idée que ça n'est miraculeux pour Rosa qu'à partir du moment où on raisonne à partir de cet imaginaire de fin de la politique, qui, à mon avis, est discutable, parce que la politique ne peut plus à tout. Mais au fond, il faut repolitiser ce concept d'accélération et dire que les réponses aux problèmes qu'il génère sont politiques. Et donc, on n'est absolument pas dans la fin de l'histoire. Hein. Alors, il y a seule idée intéressante qui est derrière ça, quand même, mais qu'on trouve plus en amont du livre, c'est l'idée de ce que Rosa appelle l'immobilité fulgurante, c'est-à-dire le fait que la société accélère, mais que finalement, derrière ça, les structures fondamentales, et notamment le mode de production capitaliste, pour ne pas le nommer, restent en place. Donc il y a un changement de surface, mais il y a une immobilité de fond, et que c'est aussi ça le problème de l'accélération. Hein. Mais Rosa n'envisage pas qu'une action politique qui limite, modifie, agit contre le capitalisme soit possible. Toutes les formes de résistance à l'accélération pour lui sont marginales, ou utopique justement, et c'est ce qu'on peut un peu lui reprocher, même si ce concept d'immobilité fulgurante qu'il emprunte à Virilio en fait a quand même une pertinence philosophique, je trouve.
Donc tu t'opposes en effet de façon très claire dans ton ouvrage, et ta réponse le confirme, aux thèses portant sur la fin de l'histoire, soit du fait de la fin des idéologies et au fond de l'installation durable d'un système unique, soit aussi à cette conception de la fin de l'histoire, puisque tu en as un peu parlé, catastrophiste ou collapsologue, au fond, ouais. L'idée que le monde va se détruire, ce qui est une autre fin de l'histoire, un autre arrêt de l'histoire. Je reviens pas là-dessus, mais il y a un autre point qui pourrait être interprété comme une fin de l'histoire, mais que tu n'interprètes pas comme ça pour de très bonnes raisons. C'est justement le présentisme. Et la dictature du présent, parce qu'on pourrait se dire au fond, n'est soumis à la dictature du présent que celui ou celle qui n'a pas conscience de l'histoire, qui a perdu la mémoire, le rapport au temps long, etc. Et c'est pas l'interprétation que t'en proposes, et d'ailleurs tu critiques ensuite le présentisme, alors du coup j'aimerais t'entendre là-dessus, justement sur le rapport entre dictature du présent et accélération de l'histoire. Et puis pertinence au fond de ce label de dictature du présent.
Oui, alors effectivement, le présentisme, hein, c'est l'idée développée par François Hartog que notre régime d'historicité moderne actuel serait centré sur un présent qui dit être chronophage au sens où ça empiète, ça dévore les autres dimensions du futur et du passé. Alors ça se traduit pour Hartog par le fait que il y a une dictature du court terme, que le présent est valorisé aux dépens des autres dimensions du temps, que on cherche aussi à rendre tout ce qu'on peut présent. Il donne cet exemple un peu précis, mais qui est révélateur. Les sondages avant les élections, On veut avoir des sondages comme si on voulait que l'élection future soit déjà présente, alors que les sondages, en fait, ne mesurent que du présent, justement. Donc, il donne ça comme exemple d'une volonté de présentifier le futur. Et du côté du PAC, on pourrait donner comme exemple l'histoire en immersion, c'est ces musées où on essaye de rendre un peu présente ce que vous êtes les sensations, je sais pas moi, de soldats dans les tranchées, etc., tout en déformant du coup le passé historique. Donc, on peut donner quand même des exemples de présentisme qui, pour moi, est un concept qui a sa pertinence, mais qui n'épuise pas notre rapport, notre expérience du temps aujourd'hui. Autre exemple, le goût pour les chaînes d'information continue. On est en permanence dans l'événement présent, et avec aussi une amnésie, comme tu disais, très forte. Je pense, là, ça va vraiment dans le sens de Hartog, à la pandémie qui a quand même gouverné nos vies pendant 2 ans et demi. On n'en parle plus du tout aujourd'hui. C'est comme si ça n'avait... Alors, tant mieux qu'on n'en parle plus, qu'on en soit sorti, si on l'est complètement ailleurs. Bon. Mais vous voyez, il y a une sorte... voilà, on passe aux événements suivants. Bon. Et donc il y a quelque chose vraiment qui capture dans ce concept de présentisme des traits contemporains. Mais en même temps, ce que j'oppose à Hartog, c'est que ça n'épuise pas quand même le rapport au passé, à l'avenir, qui subsiste. C'est-à-dire que moi, je pense que du côté du passé, il y a encore ce que j'appelle le passé pratique, c'est-à-dire des usages pratiques du passé, au sens où dans des discours politiques, par exemple, on se réfère au passé, on se réfère à l'histoire, comme une source d'exemple, de modèle, de légitimité. Ça reste encore très, très présent dans la rhétorique politique. Et ça, c'est une tradition de l'histoire maîtresse de vie qui remonte à l'Antiquité. Ça n'a pas disparu. Vous avez aussi un thème sur lequel j'ai travaillé par ailleurs, du devoir de mémoire. Un devoir de mémoire est quand même assez important aujourd'hui. C'est apparu dans les années 80, en fait, en France et dans d'autres pays, et ce devoir de mémoire, c'est un rapport fort au passé, alors que les historiens, que on peut critiquer, mais qui n'est pas du présentisme, parce que le présentisme, au fond, il n'a que faire du passé. Il n'y a pas cette espèce de respect pour le passé qu'on trouve à la fois d'ailleurs dans le devoir de mémoire, mais aussi dans les politiques du patrimoine, qui pour moi ne peuvent pas se réduire à du présentisme. En fait, il faut distinguer les cas plutôt que de prendre une catégorie et de tout mettre à l'intérieur. Et de même, le rapport à l'avenir, dans le présentisme, il y a l'idée d'une dissolution de l'avenir. On n'a plus le temps de regarder l'avenir, on se concentre sur le présent, sur le court terme. Alors ça, c'est vrai dans pas mal de circonstances, mais d'un autre côté, le rapport à l'avenir aujourd'hui reste extrêmement présent. J'évoque dans mon livre... le fait que des auteurs essayent de penser des utopies modernes, alors c'est une tradition, ces utopies du 19e siècle, utopie sociale, qu'on retrouve au 20e siècle, et encore aujourd'hui, 21e siècle, vous avez des réflexions sur ce que peut être une société meilleure, une société différente. Donc il y a encore un imaginaire utopique aujourd'hui. Je cite notamment un auteur que j'aime bien, Eric Colin White, qui parle d'utopie réelle, parce qu'il essaye de penser le concept d'utopie comme d'un modèle de société pouvant se réaliser. Et par ailleurs, toute la problématique de l'anthropocène, qui est présente et qui va l'être pour encore des générations et des générations, c'est une réflexion sur l'avenir comme menace, comme inquiétude, mais c'est pas du tout... du présentisme, c'est quelque chose d'ailleurs. Hartog le reconnaît, enfin le précise dans son dernier livre Chronos, qui fait exploser le présentisme, la question de l'anthropocène, du réchauffement climatique, parce qu'on est forcé de regarder l'avenir et d'essayer d'agir dans le présent pour limiter les effets du réchauffement climatique. Et donc là, on n'est plus du tout dans la logique du présentisme. Ceux qui sont dans le présentisme par rapport à l'anthropocène, et il y en a. Encore une fois, il faut essayer de distinguer les cas, les contextes. C'est ceux qu'on peut appeler les climato-cyniques qui disent « après moi le déluge ». profitons au maximum des avantages de la vie actuelle et tant pis pour les générations futures. Alors, eux sont dans le présentisme, mais Dieu merci, ils ne représentent pas toutes les attitudes possibles par rapport à l'Anthropocène.
Justement, tu parles de l'Anthropocène, c'est-à-dire au fond de cette période géologique hein, qui est marquée par les effets de l'action humaine sur les transformations de l'environnement. Alors, et qui conduit justement à une altération accélérée des paramètres climatiques. Et justement, sur ce point-là, je voulais revenir sur... sur un aspect de ta réflexion qui tient à la question du progrès, qui est un fil rouge parce que ça revient régulièrement. Et il est vrai que cette réflexion sur le progrès initiée au moment des Lumières, qui désignait bien d'autres progrès que les simples progrès des arts et des techniques, mais aussi les progrès moraux, les progrès juridiques, les progrès politiques, etc. On parlait des progrès d'ailleurs, finalement de plus en plus désigné, notamment en particulier au XXe siècle, exclusivement les progrès scientifiques et techniques, voire dans ces 30-40 dernières années, les progrès économiques, la croissance, etc. Bon. Ma question est la suivante, justement, par rapport à cette notion de progrès, parce qu'on constate que ça s'accélère d'une certaine façon. Il y a une innovation, une logique de l'innovation portée, favorisée, y compris dans les politiques publiques, portée aussi favorisée par une logique consumériste. On veut toujours du neuf, du nouveau, etc., avec une forme, au fond, de création destructrice, hein, pour prendre Schumpeter à l'envers, quoi, de création destructrice. Mais est-ce qu'on n'est pas là à une période où on interprète de moins en moins cette espèce de dictature de l'innovation, conçue comme une expression du progrès, est-ce qu'on l'interprète pas de plus en plus autrement que comme un progrès, justement comme quelque chose qui fait signe vers cette ère géologique un peu catastrophique, justement, où l'action humaine altère profondément et rapidement les paramètres climatiques?
Oui, alors, à propos de l'Anthropocène, d'ailleurs, tu as raison de mentionner que c'est une ère géologique nouvelle où l'homme serait devenu une force géologique capable de modifier les équilibres fondamentaux de la nature, en premier lieu le climat, mais pas seulement le cycle de l'eau, l'acidification des océans, etc. L'équilibre des espèces aussi, puisqu'il y a tout le problème de la biodiversité. Il faut rappeler que cette catégorie géologique, j'ai oublié de le dire, est le titre d'un débat et d'un problème aussi. C'est pour ça qu'elle m'a intéressé, puisque officiellement, les géologues ne l'ont pas reconnu. Il y a un groupe de travail sur l'Anthropocène qui s'est formé dans les années 2000, qui est chargé de promouvoir ce concept, de le définir assez précisément, enfin le plus précisément possible, et ensuite il doit être soumis aux instances géologiques mondiales, et les géologues sont assez prudents ou critiques par rapport à ce concept parce qu'ils le trouvent trop politique, en fait, trop chargé de philosophie politique, si vous voulez. Donc c'est un concept qui n'est pas officialisé. Officiellement, nous sommes dans l'Holocène, hein, qui a commencé il y a 12 000 ans. Bon. Et alors, mais moi je trouve que c'est un concept intéressant, justement, parce qu'il est à cheval sur l'histoire de la nature et l'histoire humaine, et c'est ça, au fond, l'idée de l'Anthropocène, à savoir que les deux histoires humaines et l'histoire de la planète sont devenues intercorrélées, elles s'articulent l'une avec l'autre, finalement. L'accélération de l'histoire, c'est aussi le fait que l'histoire naturelle et l'histoire humaine sont prises dans une spirale d'interaction qui crée tous ces problèmes aujourd'hui. Alors, pour penser ça, la catégorie de progrès, effectivement, atteint ses limites. Alors, en fait, cette catégorie de progrès a été centrale, tu l'as rappelé, au XVIIIe siècle, mais déjà, certains auteurs... la critique, hein, c'est le cas de Rousseau, tu le sais bien, mais aussi Voltaire est très prudent avec l'idée de progrès, pense que le progrès, c'est uniquement certaines périodes de l'histoire. Alors, on retrouve cette idée de progrès quand même dans, au centre de la philosophie de Hegel, chez Marx. Et puis, avec le XXe siècle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima, etc., on pensait que la catégorie de progrès serait devenue obsolète parce que on a le sentiment que l'histoire est tragique, absurde, en tout cas qu'il n'y a pas ce progrès linéaire. Et en même temps, j'avais lu un article d'un auteur qui disait que la catégorie de progrès, qu'on croit toujours morte et disparue, ne cesse de se réveiller et d'être réinvestie dans les discours sur l'histoire. Et l'exemple de ça, c'est que dans le cadre de l'Anthropocène, il y a des auteurs qui pensent que les solutions au problème du réchauffement climatique passent par une accélération des progrès technologiques. Donc là, pour beaucoup d'auteurs, enfin pour certains auteurs, disons, la technologie a elle-même son propre remède. Donc le discours, c'est alors c'est en gros, il y a différents courants. Par exemple, il y a un collectif qui remonte à 2015 qui s'appelle les éco-modernistes, qui disent qu'il faut s'appuyer sur les innovations technologiques pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est les technologies de captation carbone, c'est les technologies de ce qu'on appelle en anglais Solar Radiation Management. Donc on va gérer les rayons du soleil en envoyant du soufre dans les nuages pour créer une réflexion, un effet de réflexion des rayons censés limiter le réchauffement. Alors, il y a un livre qui décrit tout ça, qui est très intéressant, de Clive Hamilton, dont je parle, dont le titre, vous connaissez peut-être, c'est « Les apprentis sorciers du climat ». C'est comme ça qu'il qualifie ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Hein. Et donc, ce sont des auteurs qui croient dur comme fer au progrès technologique, et qui pensent que c'est la solution au réchauffement. Sauf que, en réalité, ces mesures sont très incertaines, elles peuvent entraîner des effets pervers tout aussi graves, et finalement, elles envoient un message que je trouve très problématique, qui est qu'on peut continuer comme avant le même mode de vie, le même mode de production, le même mode de consommation, puisque de toute façon, il va y avoir des solutions technologiques qui vont être mises en place. Donc, pour moi, c'est un discours assez dangereux, mais c'est intéressant parce que c'est au fond, c'est basé sur une espèce de continuation de la philosophie de l'histoire basée sur la catégorie de progrès. Mais ça, finalement, ça c'est assez dangereux. Et moi, je crois beaucoup plus aux réflexions sur la sobriété énergétique, changer notre mode de consommation, changer aussi le mode de production, du coup, le mode de vie. Tout ça est lié pour résoudre ces problèmes d'accélération, de la grande accélération de l'Anthropocène.
Et je terminerai justement là-dessus, parce que ce que tu indiques, c'est une bifurcation possible dans l'histoire, guidée par des deux utopies opposées, au fond, une sorte d'utopie technologique, et puis une autre forme d'utopie qui espère beaucoup d'une transformation de nos modes de consommation, etc. Et tu termines en fait ton ouvrage par cette référence aux utopies, alors et qui montre qu'au fond l'histoire n'est pas terminée justement. Tu insistes sur le fait qu'au fond, on n'a plus affaire en effet aux utopies révolutionnaires qui ont pu structurer le politiquement le XXe siècle, mais à des utopies plus réformistes, hein, c'est les termes que tu utilises, marquées par un principe de non-violence et pluriel. D'où hein, ce que tu disais au début dans ton introduction, le concept de polychronie, hein, le jeu de mots sur polychromie, le concept de polychronie sur lequel tu insistes. Alors, est-ce que tu pourrais revenir là-dessus sur l'importance, la fonction que tu attribues aux utopies et la nature, au fond, peut-être plus modeste, peut-être plus divers et pluriel, plus divers et pluriel des utopies contemporaines.
En effet, je me suis intéressé à cette notion d'utopie parce que c'est une catégorie historique aussi qui permet de penser l'histoire dans le rapport au futur et qui a été très, très décriée au XXe siècle parce que des auteurs, notamment Hans Jonas, dans Le principe responsabilité, contre Ernst Bloch, qui est le grand penseur de l'utopie au XXe siècle, fait une équation entre utopie et totalitarisme, avec à l'arrière-fond l'idée que l'URSS serait été la mise en œuvre de l'utopie marxiste, sachant qu'en fait, Marx, on ne peut pas dire que l'URSS soit la réalisation du projet de Marx sur de nombreux points. Quand on regarde en détail les textes de Marx, il avait en tête une utopie, d'abord il n'emploie pas le terme, mais enfin une société post-capitaliste assez différente. Donc ce concept d'utopie, il a été plongé dans le purgatoire pendant assez longtemps. En même temps, il a été réinvesti en Europe à l'époque de mai 68, où il y a quand même eu un réveil de la pensée utopique, qui a été elle-même critiquée après, avec Fukuyama. La chute du mur de Berlin, on a encore prôné la fin des utopies, puis l'utopie, un peu comme finalement un phénix renaît de ses cendres en permanence, puisque vous avez ce que on appelle les utopies réelles ou réalistes. Il y a un essayiste hollandais qui a fait un livre qui s'appelle Utopie réaliste, Roger Bregman. Il y a Eric Olin-White, et alors. Comme ils ont conscience que l'utopie a mauvaise presse, en quelque sorte, ou ils ont entaché de ce soupçon de violence et de totalitarisme, ils précisent dans leurs ouvrages qu'ils ont une notion d'utopie sans violence, qui doit passer par plutôt une réforme du système qu'une révolution, avec un processus démocratique. C'est-à-dire on fait des propositions et on les soumet à un processus démocratique d'acceptation, de rejet. Voilà, et donc dans ces utopies, alors il y a l'idée de travailler moins. Donc Bregman parle de la semaine de 15 heures, qui un peu la provoque, mais c'est une idée qui est très présente dans les utopies du 19e siècle. Contre l'accélération de la révolution industrielle, vous avez des auteurs comme Étienne Cabet, que j'ai étudié, comme bien sûr Marx, Engels, mais aussi Lafargue, le fameux droit à la paresse, qui disent voilà. Avec ce progrès technologique des machines, on peut produire plus avec moins d'heures de travail. Et donc, au lieu, au fond, d'utiliser les machines pour augmenter le profit en faisant travailler les gens tout aussi longtemps, mais en produisant plus, on va plutôt limiter le temps de travail pour développer ce que j'ai appelé une utopie du temps libre ou du loisir. Une sorte de scolaire moderne sans esclaves, par opposition à l'otium et la scolaire antique. Et donc, il y a des textes de Marx, de Lafargue, qui sont vraiment dans l'idée, voilà, on va travailler 3 heures par jour pour produire, parce qu'il faut bien produire pour se nourrir, pour satisfaire aux besoins. C'est une économie du besoin, pas de la consommation à outrance. Et le reste du temps, on va faire des activités intellectuelles, annuel, on va utiliser son temps libre comme on le souhaite, des activités politiques aussi, parce que la politique, ben, ça prend du temps. Et cette utopie du temps libre, on la retrouve chez Ernst Bloch, qui a toute une philosophie du hobby dans cette période de loisirs après le travail. Et dans les projets d'utopie réelle, on la retrouve dans cette idée de travailler moins, et c'est articulé avec aussi le thème, certes controversé mais intéressant, du revenu universel. Parce que si vous avez un revenu universel, eh bien vous pouvez travailler moins et vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quel travail. Donc vous travaillez moins, soit vous contentez de votre revenu universel et à ce moment-là vous travaillez pas, soit vous travaillez un peu, mais comme vous avez déjà ce revenu, vous n'êtes pas obligé d'avoir un plein temps, et donc vous retrouvez du temps libre pour des activités sociales qui en fait produisent de la richesse, sauf qu'elle n'est pas mesurée dans le PIB. Et donc je trouve que cette utopie du temps libre qui court du 19e au 20e siècle sous différentes formes, c'est une idée intéressante, d'autant plus que elle se met en place, elle suppose qu'on produise moins, si on travaille moins, on produit moins, on consomme moins aussi. Et du coup, ce sont des choses qui qui vont tout à fait dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que, à mon avis, ça passe quand même par une rupture avec le productivisme et le consumérisme. Donc, finalement, cette utopie du temps libre, elle rejoint le souci de l'avenir qui est au cœur de l'Anthropocène. Voilà, donc c'est ça que j'essaye d'étudier dans la dernière partie de l'ouvrage, ces pistes qui montrent que d'abord le concept d'utopie n'est pas mort et que dans les utopies actuelles, il y a des idées intéressantes du point de vue à la fois social et écologique.
Merci beaucoup. On a rejoint l'actualité à l'issue de cette belle discussion. Merci beaucoup, Christophe.